Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Thomas Hill.
Bonjour à tous et bienvenue au club. On est parti pour 2 heures de découvertes et d'idées qui vont pimenter votre été. Aujourd'hui, l'émission sera romanesque et cinématographique. On va interroger la frontière entre fiction et réalité avec une muse du cinéma français, l'inoubliable Nikita au cinéma qui vient aujourd'hui nous parler de sa nouvelle héroïne et de son premier roman, Les Abusés. Bonjour Anne Parillo.
Bonjour.
Bienvenue. On va bien sûr parler de ce très très beau livre. Hein. Pas de suspense, rassurez-vous, j'ai adoré. On partira en vacances avec vous et vous ne couperez pas notre blind test tout à l'heure sur les grandes héroïnes du cinéma. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter les membres premium de ce club de l'été, à commencer par Margot Barallon et ses bons plans en région. Salut Margot.
Salut Thomas. Bonjour tout le monde.
Où va-t-on aujourd'hui ?
En Champagne. Mais alors attention, je ne vous emmène pas boire, plutôt faire de la randonnée, même si bien sûr l'un n'empêche pas l'autre.
Bien sûr, pourquoi pas avec modération ? On a toujours notre bon camarade modération. Et puis notre muse de la musique, Fred Goati. Salut Fred.
Salut Thomas, bonjour à tous.
Quel est le programme du jour ?
Eh bien, moi c'est à consommer sans modération. Un biopic à la rentrée, un coffret somptueux. Je vais vous expliquer pourquoi Aretha Franklin. On peut pas vivre sans elle.
Aretha Franklin. Elle-même. Et puis votre pépite, on peut la dévoiler, votre pépite tout à l'heure.
Alors la pépite du jour, je me suis réveillé ce matin. Qu'est-ce que j'ai choisi ? Ah oui, c'est très rock là. C'est Smoke on the Water de Deep Purple.
Ça va être
très bon. Je vais vous raconter comment est né ce morceau mythique.
Avant 10h, notre invité média sera Florian Barbaro, que l'on retrouve dans l'émission Chef, sorte de télé-réalité culinaire à découvrir sur TMC. C'est assez original, le premier numéro c'était hier. On va surveiller les audiences qui sont en train de tomber. Tiens, n'hésitez pas à réagir à cette émission avec le hashtag Europe 1. Le club est ouvert jusqu'à 11h.
Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Thomas Hill.
Alors Anne Parillo, vous n'êtes pas au courant, mais on a passé le week-end ensemble. Je vous raconte un petit peu ma vie, mais ce week-end, j'étais sans femme ni enfant. J'étais plus que tranquille, j'étais seul en fait. Et du coup, j'ai ouvert votre livre, Les Abusés, samedi matin, et je ne l'ai pas lâché jusqu'au soir. Ce qui est fou, c'est que c'est pourtant pas un livre avec un gros suspense, mais je me suis totalement laissé embarquer par votre livre, un peu comme devant un bon film finalement. Je ne sais pas si vous avez appliqué des recettes du cinéma pour essayer de garder le lecteur ?
Non, j'ai rien appliqué du tout. Je pense que l'écriture était spontanée. Mais je pense que ça traduit aussi des structures avec lesquelles on est constitué. Et c'est vrai que moi, j'aime les choses qui sont à plusieurs lectures, où on approfondit, on va dans l'exploration humaine, on cherche vraiment à décortiquer, à analyser et aller dans les profondeurs de l'humain. Et donc forcément, l'humain en fait est quelqu'un de très mystérieux. Et donc le suspense dont vous parlez peut-être résonne à cet endroit-là. C'est que même nous-mêmes, on se connaît, c'est très difficile de se connaître et donc d'autant plus difficile de connaître les autres.
Et c'est vrai, en vous lisant, c'est une manière de se connaître. Alors, il faut raconter un petit peu l'histoire. Je sais que vous n'aimez pas trop le faire, donc je vais m'en charger. Ça commence par une très belle rencontre amoureuse, magnifique. Adélie, l'héroïne, est mariée. Elle a des enfants, mais elle va quitter son mari pour un autre. Un autre qui, au fil des mois, va changer de visage et tenter de l'emprisonner. Ça vous va si je résume ça comme ça ?
Oui, c'est un livre sur l'emprise. C'est sur l'emprise de la passion. Et c'est vrai que cette histoire d'amour, une histoire dévorante, va finalement tourner au cauchemar. Et petit à petit, cette spirale infernale va se constituer. Et cet homme va réduire cette femme à un état animal, à un état d'abus, et va en faire sa chose, et va le faire vivre des violences et des perversités, jusqu'à la pousser à la folie. Et effectivement, c'est un livre sur la manipulation, et sur jusqu'où peut mener la passion. C'était important pour moi, à travers cette histoire, Le thème que je voulais aborder aussi, c'était le non-jugement. Le non... parce que
c'est pas manichéen, oui.
Voilà,
explorez les deux facettes, en fait.
Exactement. Je voulais vraiment rentrer dans la fêlure de celui qui fait le mal, parce que celle qui subit Ben voilà, elle a une exposition naturelle de par la compassion qu'on peut avoir et puis par la plainte qu'elle peut porter de la victimisation. Et voilà, et je respecte évidemment le processus.
Mais c'est pour ça que ça s'appelle les abusés et pas l'abusé.
Exactement, c'est les abusés masculins pluriels, parce que c'était important pour moi de démontrer que... aussi bien celui qui subit le mal que celui qui le fait subir, ce sont deux âmes qui souffrent.
Et alors votre personnage, Adélie, est une actrice comme vous. Les descriptions, c'est vrai, sentent tellement le vécu qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir votre visage en tête tout au long de la lecture. Alors, bien sûr, il y a un avertissement au début du livre nous disant que tout cela est de la fiction. Moi, j'ai quand même l'impression de mieux vous connaître, finalement, en ayant lu ce livre. Est-ce que j'ai tort ?
Non, c'est sûr que par rapport à l'actrice qui se dissimule et qui floute beaucoup de choses à travers un personnage et sous la direction d'un metteur en scène, c'est vrai que dans l'écriture, il y a un dévoilement, il y a une mise en abîme, une mise à nu, et il y a effectivement quelque chose de monstrueux dans l'écriture, parce qu'on libère ce qu'on porte en soi à travers les lignes et à travers nos personnages, et on libère voilà, nos silences, nos abus, nos violences. Donc forcément, on existe un peu à travers tout le...
Ça a été un travail de longue haleine, hein, d'ailleurs, pour vous. Il vous a fallu 6 ans pour écrire ce livre. Comment ça s'est passé, ce travail d'écriture ? Ça a été justement douloureux, ou finalement, il y a eu aussi des grands moments de joie ?
Alors, je pense que c'est autant une jouissance qu'une souffrance.
C'est ça.
Mais c'est une belle torture, quoi. En fait, on est otage de son écriture et de l'écriture, puisqu'à un moment, on réalise que les personnages... Alors, c'est assez surréaliste, ce que j'essaye de définir, mais on réalise que les personnages que vous créez, bah, finalement, vous possède à un moment et vous dicte. On n'est pas seul face à sa page. On a des voix intérieures, on a les personnages qui d'un seul coup s'expriment. Et c'est vrai que voilà, c'est un parcours assez vertigineux, mais qui en même temps est d'une puissance et d'une intensité. Ce qui est assez phénoménal, de se dire qu'assis sur son fauteuil face à sa table, on vit quelque chose d'une intensité... parfois même supérieure à la réalité. C'est même fou. Moi, je dirais complètement supérieure à la réalité.
Les Abusés d'Anne Parillo, c'est un livre à la fois touchant et percutant. Je vous invite vraiment à le lire. C'est chez Robert Laffont. Dans un instant, vous aurez le droit à votre portrait sonore. On va en savoir un peu davantage sur vous. Mais d'abord, tradition dans cette émission, on écoute un titre que vous aimez. Et forcément, avec vous, il s'agit d'Amour, mais je t'aime, avec le duo Camille Lelouch et Grand Corps Malade. Extrait de son très bel album, Mesdames.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Le club de l'été avec la Dream Team, Margot Barallon, Fred Goati et notre invité aujourd'hui, Anne Parillo, jusqu'à 11h. Et alors, c'est l'heure de votre portrait sonore. Anne, on vous passe des extraits qui, normalement, devraient vous rappeler des moments de votre vie. Voici le premier.
Vous avez un petit doute, hein ?
Ouais, c'est loin.
Un petit air disco ?
Oui, c'est le thème de la plage.
Et voilà, alors on l'entend là.
Ah voilà.
Hôtel de la plage, c'est Sheila qui chante hein, l'une des musiques du film qui vous a fait connaître, Hôtel de la plage de Michel Lang. C'est sorti en 78, vous aviez 17 ans, ça a été un carton. J'ai vu ça a fait plus d'entrées que Les Bronzés, ce film. Petit rôle, mais grand souvenir, j'imagine.
Un très grand souvenir, parce que ça a été décisif sur mon désir de vouloir à jamais vivre sur un plateau de cinéma et incarner des personnages. Donc d'un seul coup, je me suis dit, mais il y a une autre planète qui existe, magnifique, formidable, où la différence va pouvoir exister. Et donc d'un seul coup, j'ai trouvé un lieu pour vivre.
Vous y aviez pensé avant ? C'était un souhait ou pas du tout ? C'est arrivé
par
hasard ?
Non, moi je voulais être avocate.
Et tous les acteurs disent ça. C'est quoi cette histoire ? Vous vouliez devenir avocate ?
Ah oui, moi je voulais être avocate. Et puis c'était dans ma chair. Et ça l'est toujours. Hein. C'est-à-dire que c'est une pulsion vraiment de justice. Et finalement que j'ai traduit la plupart du temps à travers de manière inconsciente à travers mes personnages, où j'ai toujours pris, et à travers mes deux héros, où je prends toujours, effectivement, des personnalités condamnables, hors la loi, incompris, et voilà, et toute ma mission que je m'impose, c'est de dire, voilà, j'ai 2 heures pour un film, où là, j'ai 370 pages, pour défendre des personnages qui font des actes parfois monstrueux, mais qui ne veulent pas dire que ce sont des gens mauvais.
Ouais, c'est ça, c'est ce que vous faites hein, dans Les Abusés. Vous cherchez aussi à défendre le bourreau, ou en tout cas à mieux nous le faire comprendre. Deuxième petit extrait.
Le César est attribué à Anne Parillo.
Merci. Je voudrais remercier Luc Besson à travers moi. Pour Sophie et moi, et toute son équipe.
On est obligé d'en parler, évidemment. 1991, un grand moment dans votre carrière, ce César de la meilleure actrice pour Nikita. Une émotion qui est visiblement immense sur le moment, mais j'imagine que ça ne doit pas être simple à gérer derrière. Comment ça s'est passé?
Mais en fait, le souvenir le plus, l'émotion la plus forte que j'ai eue à ce moment précis, étrangement, c'est les applaudissements avant de monter sur scène. C'est-à-dire que c'est une vague dans la salle où d'un seul coup, on a une multitude de gens qui vous disent « on est d'accord pour le lui donner ». Et quand on n'a pas forcément confiance en soi et qu'on doute beaucoup, de sentir cette vague de gens qui vous disent « continuez et voilà ce que vous proposez a une valeur ». Ça, c'est magnifique, mais c'est vrai que l'après, c'est surtout le personnage de Nikita qui est difficile, parce que c'est un personnage qui a une palette tellement vaste, où on touche un peu émotionnellement à tout, et même physiquement, puisqu'elle change d'allure en permanence, elle change de coiffure, elle change, elle a les cheveux longs, elle a les cheveux courts, elle est rousse, elle est brune, elle est...
Vous avez tout fait en un film, en fait.
C'est une victime, c'est une... Et donc, en fait, on touche à tous les endroits, et au niveau de l'inspiration, après, pour d'autres créateurs, ben finalement, ça peut bloquer et inhiber, parce qu'on se dit, ben, elle a tout fait dans un rôle, qu'est-ce qu'on peut lui faire d'autre? Et c'est vrai que c'est à moi, depuis et aujourd'hui encore, parce que c'est un challenge qui, moi, m'intéresse de relever, de dire, voilà, c'est comme un titre de champion, et de dire, je rejoue mon titre, et un jour, je rejouerai mon titre, et je ferai une... Voilà, ou à l'identique, ou encore plus loin. Mais
vous l'avez peut-être trouvé hein, cette nouvelle héroïne, on va en parler dans un instant avec Les Abusés, parce qu'effectivement peut-être qu'un jour ce sera sur grand écran. Prochain extrait.
T'as joué la Madone, non, où t'en es, y'a personne. Quand la nuit tu frissonnes, qu'est-ce tu dis, qu'est-ce tu donnes.
L'homme. C'est vous qu'on entend chanter sur ce titre en 1985 à 45 tours. C'était la première fois, peut-être la dernière fois que vous êtes lancé dans la musique.
Oui, oui, parce que je pense qu'il y a des erreurs dans les parcours. De temps en temps, on se laisse influencer par effectivement des gens qui d'un seul coup, parce que vous êtes dans la lumière, d'un seul coup vous devenez chanteuse, vous devenez votre valeur, c'est s'étend à d'autres disciplines, alors que bon, c'est clair que c'était pas
vous
bon.
Vous êtes l'auteur du texte ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de rimes en on.
Non, pas du tout. C'était Jean Falissard, qui était chanteur, et qui a créé cette chanson.
D'accord. Mais et vous pourriez y revenir à la chanson ou non? Vous êtes vacciné là?
Non, ce que j'ai adoré, c'est que je me suis retrouvée au milieu de la cohorte des chanteurs qui vont sur les scènes en été, et donc sympa. Devant des milliers de gens. Donc malheureusement, ce n'était pas forcément pour quelque chose de très puissant. Mais en revanche, c'était des premiers pas de scène, et ça m'a fait découvrir la scène que j'ai adorée.
Très bien, et merci pour toutes ces petites confessions. On va en avoir d'autres dans un instant. Et puis dans un instant, Fred Goati, on va s'intéresser avec vous à une reine, hein, la reine de la soul.
Elle-même, Aretha Franklin.
Restez avec nous, on revient juste après ça.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
La suite du club de l'été d'Anne Parillo jusqu'à 11h. Et vous étiez en train de nous dire, Anne, que vous adorez la musique. Et bien, ça tombe bien. On va parler musique avec Fred Goati. Fred, ça fait bientôt 3 ans déjà qu'Aretha Franklin a tiré sa révérence. C'était le 16 août 2018. Mais entre la sortie annoncée le 8 septembre de son biopic Respect et la parution prochaine du rétrospective en 4 CD, on n'est pas prêt de l'oublier, Aretha.
Ah ça oui, tiens, revenons d'abord 55 ans en arrière pour découvrir l'une des premières chansons de ce coffret rétrospectif qui sortira donc juste avant le biopic, très attendu, de la reine de la soul. Eh oui, c'est déjà magique, ça swing et ça donne envie de danser. Est-ce que c'est du jazz ou est-ce que c'est de la soul? On n'est pas très sûr. D'ailleurs, les premières années de sa carrière, du gospel, la soul, le blues, le jazz, elle hésitait, Aretha Franklin. Et puis, son premier contrat s'est terminé. Et un producteur, un monsieur qui s'appelait Jerry Wexler, a enfin réalisé son rêve, produire la jeune Aretha et faire d'elle la soul woman la plus respectée de sa génération. Respect, monsieur Wexler, et respect, madame Franklin. R-E-S-P-E-C-T. Ça sonne mieux en anglais quand même. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me.
Qu'est-ce que c'est bon ça. C'est donc à partir de la fin des années 60 qu'Aretha Franklin va enregistrer comme ça, tube sur tube, hein, avec ce grand producteur. Donc.
Exactement, et Jerry Wexler, faut quand même pas oublier que Jerry Wexler, c'est lui qui a entre guillemets inventé Ray Charles, qui l'a fait aller du gospel aussi à la soul et au rhythm and blues, c'est un producteur de génie. Donc cette nouvelle association entre Wexler et Aretha Franklin, elle va changer tout simplement le cours de l'histoire de la musique, et pas seulement de la soul. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout le monde aime Aretha, tout le monde veut lui écrire des chansons, tiens, même les plus grands, hein. When I find myself in times of trouble, j'allais dire Blind Test, mais enfin...
Les Beatles, évidemment, Paul McCartney, Let It Be, 1970, rappelez-vous.
Exactement, il est fort ce Thomas, il est très très fort. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce classique, Let It Be, eh bien, Sir Paul l'avait écrit en pensant à Aretha Franklin et il l'avait envoyé au soupli discret, hein, à Jerry Wexler. Résultat, la Queen of Soul, la Reine de la Soul, eh bien, elle l'a enregistré avant les Beatles. Oh, je sens les frissons là, je sens les.
Ah ouais, c'est...
Oh là là là.
C'est très beau.
Ça y est, vous avez déjà oublié celle des Beatles.
J'avais jamais entendu cette version.
Non,
elle est magnifique, n'est-ce pas? Il est bien fait de penser à Aretha Franklin, monsieur Paul McCartney, avant de l'écrire cette chanson. Alors, toutes ces merveilles, elles figurent donc, excusez-moi, dans le coffret Aretha, qui sortira fin août. Et il y a même des perles plus récentes, parce qu'il ne faut pas résumer Aretha Franklin aux années 60-70. Tiens, l'irrésistible Freeway of Love, l'autoroute de l'amour. On dit toujours la musique d'autoroute, c'est bien quand même parfois.
Mais c'est fou parce qu'en français, c'est l'autoroute de l'amour, c'est d'une ringardise absolue.
Ah,
mais...
ah oui,
mais
Freeway of Love. Faut laisser la magie.
Tiens, on enchaîne avec A Rose is Still a Rose, un composé spécialement pour Aretha en 1990. Vous voyez, on avance, on remonte dans le temps par une certaine Lauryn Hill. Biopic. Venons-en au biopic quand même. Aretha sera incarnée et surtout réincarnée dès le 8 septembre par celle qu'elle avait personnellement choisie pour jouer son rôle à l'écran, la chanteuse et actrice Jennifer Hudson. On l'avait beaucoup aimée dans Dreamgirls en 2006. Alors, dans la bande-annonce qu'on peut d'ores et déjà voir sur YouTube, Jennifer Hudson, elle chante, elle interprète « You make me feel like a natural woman ».
Oh, Attends, qui est en train de chanter là ?
Thomas n'y croit pas. Oui, c'est Jennifer Hudson qui est actrice et chanteuse.
Ah, mais elle a une voix incroyable.
Ah, c'est Aretha Franklin qui l'avait choisie. Vous vous rendez compte ?
Ah,
on est choisi
par
Aretha Franklin, c'est qu'a priori, on sait chanter. Alors, You Make Me Feel Like a Natural Woman, c'est une chanson de Carole King. Hein, et en 2015, le Kennedy Center, le fameux Kennedy Center aux États-Unis, avait rendu hommage à cette géniale auteure et compositrice. Et Aretha Franklin, pour rendre hommage à Carole King, était venue interpréter cette chanson spécialement pour elle. Alors attention, hein, qui avait versé une larmichette ce soir-là ? Rien moins que Barack Obama. Il faut regarder vraiment ce petit... C'est sur YouTube, c'est absolument bouleversant. Aretha Franklin arrive avec un manteau de fourrure, de la fausse fourrure, j'imagine. Elle se met au piano et à un moment, elle se lève. Et là, toute la salle se lève avec elle. Barack Obama pleure, George Lucas pleure, tout le monde pleure. Carole King, qui a écrit la chanson, est hystérique. Elle pousse des cris, c'est insensé, c'est absolument bouleversant. Alors voilà, alors pour patienter en attendant la sortie du biopic, je vous invite aussi à voir ou à revoir le documentaire qui s'appelle « Amazing Grace ». C'est un fabuleux concert gospel filmé dans une église de Los Angeles en 72. Et là aussi, je suis désolé, mais je ne prévois pas la boîte de mouchoirs, mais vous allez pleurer aussi. C'est sublime.
C'est sur YouTube, ça aussi ?
Non, ça, c'est pas sur YouTube. Il faut le voir sur quelques plateformes de streaming ou acheter, vous savez, ces vieilles choses qui s'appellent les DVD ou des Blu-ray. Ça marche très bien.
Ça marche encore, ça ?
Eh oui, ça marche encore.
Des laserdisques, pourquoi pas ? Merci beaucoup, Fred. Anne Parillo, quel genre de musique vous écoutez, vous ?
Alors, en fait... C'est assez réduit. Non, je recommence. C'est pas assez réduit. C'est que je suis obsessive. Oui. Et donc, effectivement, je m'attache à des rythmes et à des musiques ou à des chansons que j'écoute en boucle, en boucle, en boucle, en boucle pendant des périodes très étendues. Et donc, ça peut aller aussi bien dans du classique comme du Verdi, comme les Stabat Mater, ou du trip-hop, ou du hip-hop, ou du... En fait, j'ai besoin d'un mélange entre la tragédie, il faut que ça soit sur un fond de tragédie, et en même temps, qu'il y ait, pour la musique moderne, ou une envie de danser, ou pour la musique classique, un espoir. C'est-à-dire que c'est un mix émotionnel qui fait qu'une musique s'empare de moi et que d'un seul coup, elle me traverse et elle m'inspire.
Donc c'est rarement Carlos ou Frankie Vincent, quoi, par exemple. Non, mais vous aimez Benjamin Biolay, Grand Corps Malade, Étienne Dao.
En fait, j'étais étonnée parce que quand vous m'avez demandé un choix de trois chansons, c'est vrai que je pars toujours sur des musiques anglo-saxonnes en général et que pour la première fois, je me suis dit, non, mais ces trois chansons, elles sont quand même magnifiques. Et elles sont sur des thèmes, évidemment, qui me touchent, parce qu'elles sont toutes sur la passion.
Ouais.
Et sur la douleur de la passion. Et franchement, ces trois chansons... je veux dire, la chanson de Grand Corps Malade avec Camille Lelouch. D'abord, je trouve que Camille Lelouch a une voix incroyable aussi dans
c'est
la
vrai,
chanson. Et ce qui est dit, le texte, est un texte fort, est un texte vrai, est un texte qui me touche.
On va continuer à parler de chansons et de passion dans un instant, mais on va aussi parler télé et cuisine avec un doc qui nous plonge dans le quotidien de grands chefs. A tout de suite. Là.
Thomas Hill vous présente le club de l'été sur Europe 1.
Ce générique, c'est celui d'une nouvelle émission. Une nouvelle émission qui a commencé hier soir sur TMC, qui propose aux téléspectateurs d'entrer chaque jour à 19h15 dans le quotidien de 10 grands chefs, en les suivant à la fois derrière les fourneaux, mais aussi dans leur vie un peu plus intime. Et parmi ces chefs, on retrouve Florian Barbaro, ancien candidat de Top Chef en 2019, qui est avec nous ce matin. Bonjour Florian.
Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir.
Ouais, bienvenue dans ce club de l'été. Alors... Après les ch'tis à Miami ou les Marseillais à Dubaï, là, on a les chefs en cuisine. Est-ce qu'on peut dire que le chef cuisinier devient un personnage de télé-réalité comme les autres, finalement ?
J'ai envie de dire que oui, avec ces dernières années, ça s'est pas mal, j'ai envie de dire, starifié, mais dans le bon sens, parce que voilà, on voit les chefs différemment, on les voit un peu plus que seulement derrière leur fourneau. Alors, je pense pas qu'on ira à Miami... ou à Dubaï tous ensemble. Mais en tout cas, les gens sont plongés dans notre quotidien et je trouve ça hyper intéressant.
Et vous étiez assez à l'aise avec ça? Ça ne vous dérangeait pas de, justement, de voir un peu montrer une part de votre intimité?
Bah, quand on m'a proposé de faire l'émission, franchement, je n'ai pas hésité parce que pour avoir déjà fait un programme télé qui était purement cuisine, je trouvais ça hyper intéressant que les gens puissent me suivre dans mon quotidien et qui s'intéressent aussi à l'homme plus qu'au cuisinier. Et je trouve ça hyper valorisant pour nous tous.
Allez, pour mieux savoir à quoi ça ressemble, un petit extrait de la bande-annonce.
Événement. Découvrez Chef, votre nouveau rendez-vous sur TMC. 10 chefs prestigieux. Au parcours différent.
C'est l'histoire de ma vie, de me battre.
Reconnu par les plus grands.
T'as fait un super boulot, Geoffrey.
Vous ouvre les portes de leur quotidien. Après des mois d'incertitudes liées à la crise sanitaire, les chefs font face à leur plus grand défi.
C'est le plus beau projet professionnel qui me soit arrivé.
Découvrez leur vie qui ne ressemble à aucune autre.
C'est ça qui nous fait vivre.
C'est juste magique.
Beaucoup viennent de concours de cuisine, hein, comme Top Chef ou le meilleur pâtissier. Vous les connaissez tous, j'imagine. On a l'impression que c'est un peu le passage obligé aujourd'hui, la télé, pour émerger dans ce métier. Est-ce que c'est le cas?
C'est vrai que faire de la télé aujourd'hui, comme les émissions que vous avez citées, c'est un tremplin pour beaucoup d'entre nous. Après, il y en a qui n'ont pas forcément fait de passage en télé et qui cartonnent aussi. Moi, je suis hyper honoré d'être à côté de tous ces grands chefs. Hein. Je pense par exemple à Mauro Colagrégo, qui est juste un
chef
du monde.
Ouais.
Et c'est juste incroyable. Après, pour des jeunes chefs comme je pense à Mathias ou à moi, c'est vrai qu'un passage télé, c'est un tremplin incroyable aujourd'hui.
Et alors, dans l'émission, chaque chef a justement son petit surnom qui résume un peu sa patte. Chef pâtissier haute couture, par exemple, pour Julien Dugour. Chef pâtissier freestyler pour Geoffrey Kyde. Et alors vous, c'est ambassadeur de la Healthynomy. Alors qu'est-ce que c'est la Healthynomy? C'est la cuisine santé en version un peu plus branchée, c'est ça?
C'est ça, en fait, la Healthynomy, c'est en gros cuisiner healthy tout en faisant de la gastronomie, c'est-à-dire avec des valeurs qui me sont chères, utiliser beaucoup de céréales et montrer qu'on peut manger sainement et manger plaisir. Simplement.
D'accord. Et alors, c'est peut-être quelque chose que vous allez implanter à Dubaï, parce que j'ai vu que vous faisiez aussi du consulting à Dubaï. On vous suit aussi dans votre quotidien comme ça de chef entrepreneur. Pourquoi Dubaï?
Bah, Dubaï, tout simplement parce qu'on a tous été un petit peu freinés par ce confinement. Ça a retardé l'ouverture de mon restaurant sur Paris et je me suis dit ok, où est-ce que je peux me développer, puisqu'il y a une autre appellation que j'aime bien, c'est chef entrepreneur au grand cœur. Et entrepreneur parce que j'aime entreprendre et me développer, et je me suis dit que là-bas il y avait quelque chose à faire. Et vous le verrez dans l'émission, j'y vais pour décrocher un contrat de chef consultant dans un très bel hôtel sur Dubaï.
Ouais. Alors chef entrepreneur, chef influenceur aussi, vous êtes très actif, hein, sur les réseaux sociaux, vous posez souvent torse nu, vous faites des partenariats avec des marques. C'est presque un nouveau métier en fait, ça.
Ouais, c'est vrai, bon, torse nu, pas tout le temps, quelques fois, mais je suis quand même cuisinier. Non, mais c'est vrai que ça fait partie après aussi de mon image et du côté sportif, hein, que j'assume totalement. Et puis, je pense que ça fait aussi partie du nouveau métier de chef, c'est-à-dire être influent sur les réseaux sociaux, mais pour apporter du positif et puis montrer que voilà, on sort de derrière nos fourneaux. Et je pense que le confinement, les gens se sont remis vraiment à cuisiner et ça a été un plaisir d'échanger ça avec tous les internautes.
Et alors la cuisine dans tout ça, où en est votre projet de restaurant, d'ouverture?
Alors, je ne vais pas me porter la poisse parce qu'avec les deux dernières années, c'était un peu galère et pour tous. Mais voilà, début 2022, je vais ouvrir sur Paris. C'est une certitude maintenant. Donc, ouais, je suis super content.
Vous savez déjà dans quel coin?
Ah, ce sera au centre de Paris.
D'accord, très bien.
Ce sera au centre de Paris entre 9 et 18.
Bon, ce sera annoncé.
9e et 18e arrondissement.
Prochainement, si je comprends bien. Alors, Florian Barbaro, par contre, j'ai... J'ai une nouvelle moyenne pour vous, parce que là, on a jeté un coup d'œil aux audiences d'hier soir. Elles ne sont pas excellentes. Hein. Le premier épisode a réuni 119 000 téléspectateurs, le deuxième 167 000. On est assez loin des scores des rediffusions habituelles qui sont sur cette heure-là pour Quotidien. Bon, ça va peut-être progresser dans les jours, dans les semaines à venir. J'imagine que c'est ce que vous espérez.
Bah ouais, après je pense que comme tout nouveau programme, il faut le temps qu'il s'installe. Et voilà, ça va être une quotidienne, donc on a le temps pour s'installer. Et je pense que les gens aussi au fur et à mesure vont s'attacher au personnage. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite et ça marchera de mieux en mieux, j'ai aucun doute.
Et puis c'est vrai qu'après la longue période de crise hein, pour les restaurateurs, c'est aussi une façon de remettre ce beau métier dans la lumière. Donc on vous souhaite beaucoup de succès. Merci Florian d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup à vous.
Je rappelle donc,
un
chef,
grand merci.
C'est à découvrir du lundi au vendredi à 19h15 sur TMC. Vous aussi, Anne Parillo, vous avez eu votre série, enfin c'était plutôt de la fiction à la télé, l'an dernier dans la première saison de H24 sur TF1, où on suivait le quotidien non pas de chef mais d'infirmière. Y a des chances de voir une saison 2 ou c'est pas du tout d'actualité?
Non, c'est pas d'actualité, mais quelque part ça, alors que j'ai adoré vraiment le concept de la série, et aussi quelque chose de totalement différent d'un film, d'un long métrage.
C'était une première pour vous?
Ah oui, complètement, ouais. Et c'est vrai que voilà, on s'habitue à un personnage, on le nourrit quotidiennement et on a le temps vraiment de le développer et profondément de s'y attacher et de vivre. Enfin, moi, je me suis vue comme une infirmière qui va le matin à l'hôpital, ouais. Quoi. Comme tous les matins, j'enfilais ma blouse et j'allais dans mon vestiaire. Et ça, il y a quelque chose vraiment de très excitant. Pour autant, il y a aussi le danger après d'être catalogué et catégorisé dans un personnage qui est typiquement français, et donc c'est ce qu'il faut essayer d'éviter pour que l'imaginaire des téléspectateurs soit toujours entraîné et se laisse entraîner, parce que justement il y a toujours un flou ou un mystère qui reste autour et qui fait qu'on peut continuer à lui proposer des nouvelles choses.
On va entraîner notre imaginaire dans un instant. On va partir en vacances avec vous, Anne Parillo. Mais avant ça, on va se mettre doucement, tranquillement, dans l'ambiance d'été avec Carla Bruni, comme si c'était hier, en version estivale, versionnée estiva dans le texte. C'est le club de l'été jusqu'à 11h. Carla Bruni sur Europe 1.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Ben oui, chaque matin on part en vacances avec notre invité, et aujourd'hui Anne Parillo, nous avons l'honneur d'être dans vos bagages. On prendra pas trop de place, hein, c'est promis. Il y a juste Fred qui risque de chanter un petit peu pendant tout le trajet. Où est-ce que vous partez vous d'habitude, Anne Parillo?
Il n'y a aucune règle.
Vous n'êtes pas fidèle dans ce domaine-là?
Non, pas du tout. Mais non, moi j'aime d'abord l'inattendu, l'inconnu, et effectivement expérimenter. Des nouveaux décors, des nouveaux endroits, des nouveaux climats, une nouvelle culture.
Et alors cet été, à quoi il ressemble votre été? Où est-ce que vous êtes allé? Où est-ce que vous souhaitez aller?
Alors j'arrive des Canaries, de Fuerteventura, qui est une des îles. Et je connaissais Tenerife, et là donc j'ai découvert Fuerteventura. Spot parfait pour le kite.
Ah ouais? Vous faites du kite? Enfin, kitesurf?
Non, moi je ne fais pas. Mais c'est vraiment l'endroit.
Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de vent.
Ah oui. Mais c'est très beau. C'est un paysage totalement volcanique et aride et un peu lunaire comme ça, et très radical, très absolu et très excessif dans ce qu'il propose.
Et alors, si vous ne faites pas de kite là-bas, vous faites quoi? Vous baladez? Vous êtes très plage?
Alors non, je ne suis pas très plage non plus.
Non, piscine.
non, en fait, marcher. J'adore marcher, mais la marche soutenue, la marche rapide.
Ah d'accord.
J'adore ça. Et là, je n'avais pas pris de vacances. En fait, moi, j'ai écrit effectivement pendant 6 ans. Et même si je suis partie de temps en temps pour partir en vacances, j'en ai absolument pas profité parce que j'écrivais tout le temps. Et donc, c'était la première fois que d'un seul coup, j'allais vraiment vivre des feuilles qui bougent, du vent qui souffle, et de ce qui pouvait se passer dans mon cerveau de manière totalement irréfléchie et déconcentrée. Et c'était vraiment agréable.
Et alors là, vous êtes repassé spécialement pour nous à Paris ce matin.
Oui.
vous allez repartir?
Et là, je repars en Crète.
Ah, oh, formidable, la Crète. Oui.
Je ne connais pas.
Vous ne connaissez pas ?
Non, voilà, je vais découvrir.
J'espère que vous n'aurez pas trop de vent ce coup-ci. Et alors, des souvenirs d'enfance maintenant, où est-ce que vous partiez en vacances quand vous étiez petite ?
Belle-Île-en-Mer. Alors ça a été une large période de mon enfance, parce qu'en fait, mes parents avaient une manière, enfin, essentiellement mon père, qui était d'acheter des terrains, de camper dessus pour savoir si on allait construire. Du coup, on a campé comme ça, sur des monts d'oliviers, sur des pics de montagne, sur, et à Belle-Île-en-Mer. Et Belle-Île-en-Mer, ils ont construit.
Ah, il a
donc,
fini par
finalement, ça a été... Et Belle-Île-en-Mer, c'est un endroit... c'est un très joli endroit. Y a quelque chose de très vrai, quelque chose de très pur. C'est très protégé. C'est une île. Dans les îles, il y a une ambiance et une façon d'être complètement différente. Mmh. Et puis voilà, c'est arrivé de bas. Enfin, c'est tout un protocole, les îles, les bateaux qui arrivent, qui chargent, qui déchargent. C'est l'événement de l'île. Et puis finalement, tout le monde se rencontre, tout le monde se retrouve. Il y a le palais qui est la capitale. Et où finalement on va tous dans les mêmes magasins, dans les mêmes endroits. Mais ce qui est magnifique à Belle-Île, c'est la variété des plages, puisqu'il y en a, voilà, il y en a tous les 100 mètres, et des plages totalement sauvages, totalement. Et voilà, c'est le contraire de la French Riviera, quoi. Il y a,
ouais, c'est ça.
C'est des plages avec des falaises. Ou,
et avec un peu moins de monde aussi.
Avec moins de monde. Alors ça devient très frisé, Belle-Île, hein. C'est ça le problème.
Ça vous arrive d'y retourner ?
Oui, parce que du coup, ma sœur a une maison maintenant là-bas.
Ah, très bien.
Voilà, donc c'est essentiellement... Sinon, il y a eu beaucoup l'Espagne, quand j'étais enfant aussi. Voilà, mais c'est Belle-Île qui reste à l'esprit.
Au top. Allez, on va vous placer maintenant, Anne Pario, devant les vrais grands choix de l'été. Ce sera difficile parfois, mais il faudra choisir. Anne, en vacances, est-ce que vous êtes plutôt Atlantique ou Méditerranée, du coup ?
Oh là là. Les deux. Ça va être difficile, moi, les choix.
Il faut choisir.
En ce moment, on va dire la Méditerranée parce que j'ai envie de chaleur.
Vous voulez du soleil. Amour ou amitié ?
Amour.
Vous partez plutôt avec des amours qu'avec des potes. Gaspacho ou Carpaccio ?
Carpaccio.
Belle étoile ou 5 étoiles ?
Ah, belle étoile.
Ah oui ?
Ouais, j'aime bien. Enfin, bon... Alors, ça dépend si c'est des choses qu'on fait ou si c'est des choses qu'on aimerait. Voilà, ce qu'on fait, non, c'est plutôt le 5 étoiles, mais ce que j'aimerais, c'est la belle étoile.
Oui, parce que dans votre livre, l'héroïne, elle a des sacrés goûts de luxe. Hein.
Absolument, ouais. Ah oui.
Ouais, ouais.
Non, elle est entraînée dans les goûts de luxe.
C'est ça. En vacances, vous êtes plutôt lettre ou texto ?
Texto.
Vertige ou mal de mer ?
Vertige.
Paris ou Rio ?
Paris.
Paris, tiens. Lire ou écrire ?
Écrire.
Vous avez beaucoup écrit. Chichi ou chouchou ? Ça, c'est sur la plage, ça.
Ah chouchou.
Champagne ou rosé ?
Ni l'un ni l'autre, je ne bois pas d'alcool.
Ah, parce qu'il y a pas mal de champagne aussi dans votre
livre. Ah oui, mais c'est pas
livre.
Moi, l'héroïne.
C'est pas vous. Crème 50 ou Monoeil ?
Alors pareil, ni l'un ni l'autre, parce que je ne vais pas au soleil.
Vous n'allez pas au soleil ?
Non,
vous
j'y vais
totalement.
À...
Tongue ou sandale ?
Tongue.
Couche tard ou lève tôt ?
Couche tard.
Bronzette ou grimpette ?
Grimpette.
Ouais, c'est ce qu'on nous expliquait.
Ouais.
Bar ou loup ? Sachant que c'est le même poisson, hein, bien sûr.
Oui, oui, c'est ça. Bon, on va faire la Méditerranée, puisqu'il y en a un qui est. Je crois que c'est le bar. C'est le bar.
C'est ça, c'est le bar. Eau douce ou eau salée ?
Eau douce.
Et enfin, l'été, pour vous, c'est plutôt l'amour à la plage, à Ouchachacha, ou à l'hôtel de la plage ?
Les deux.
Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Vous avez vu, il vous a pas fallu 6 ans pour écrire nos textes. On parle d'amour à la plage, mais alors dans votre livre, vous êtes beaucoup plus olé olé. Hein. Il y a des pages qui font transpirer, qui seront compliquées à mettre sur grand écran, ou alors votre film il sera interdit au moins de 18 ans. Vous allez devoir édulcorer un petit peu quand même.
Oui, alors vous parlez des scènes d'amour, des scènes sexuelles.
Oui.
Mais parce qu'il ne peut pas y avoir de passion sans de scènes sexuelles. Et effectivement, moi j'ai un problème souvent au cinéma où je trouve que les protagonistes quel que soit leur métier ou leur identité, ils font tous l'amour pareil. Ouais. Et c'est pas normal parce que le terrain sexuel est vraiment un terrain révélateur, non seulement de l'enfance et de comment les choses se sont traduites à l'âge adulte. Et donc c'est très important pour moi, la description, voilà, la traduction sexuelle du sentiment ouais. amoureux.
Et on va en reparler de ce livre, Les Abusés, dans un instant. Et puis le rappel des titres de 10h. Et on ira tout chaud sur la rue de presse de Cécile Schloss.
À tout plaisir. Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Thomas Hill.
C'est la deuxième partie du club de l'été avec l'actrice devenue auteur Anne Parillaud jusqu'à 11h. Dans cette deuxième heure, Margot Barallon, vous allez nous partager votre indispensable du jour.
Oui, puisque le thème, ce sont les actrices. Ouais. Aujourd'hui, j'aurai deux magnifiques documentaires à vous proposer.
Sur deux grandes actrices.
Sur deux grandes actrices.
Formidable. Fred, de la musique avec vous et vous allez nous délivrer une pépite dont vous seul avez le secret.
Ça vous dit quelque chose ?
On l'entend, la guitare. Ah,
bah oui, mais comment c'est né ce morceau ?
Smoke on the water.
Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Bah si, vous verrez tout à l'heure.
On va découvrir ça. Et puis Anne, on va vous tester sur les héroïnes du cinéma. Tout à l'heure, ce sera notre blind test. Et on terminera, comme d'habitude, par un coup de fil à un chef qui nous donnera sa petite recette de l'été. Aujourd'hui, le chef italien haut en couleur, Simone Zanoni. Mais avant tout ça, on ouvre notre météo des pages.
Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Thomas Hill.
La météo des pages avec Cécile Schloss. Comment ça va, Cécile ?
Ça va très très bien. Je reviens toujours de week-end, moi, donc je suis contente.
Elle est plus bronzée que jamais.
Non, c'est pas vrai. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors pendant l'été, dans la presse, il y a beaucoup d'articles très intéressants et surtout essentiels à notre existence. Ouais. Et j'en ai compilé quelques-uns pour vous. Et on commence avec un article du Au Féminin qui nous donne les trois astuces du langage corporel pour réussir vos premiers rencarts. Ah. Et ça, c'est utile parce que si, comme moi, un rendez-vous, vous concentrez pour pas dire trop de bêtises, eh bien il faut aussi se concentrer pour pas trop en faire, et ça c'est pas évident. Alors quels sont ces secrets pour plaire au max ? Déjà, la journaliste nous dit qu'il faut regarder son interlocuteur et plutôt sourire.
Ah, c'est bien
et ouais,
ça.
Ça, il fallait y penser quand même. Ah, oui. Moi, j'ai été convaincue que pour bien séduire, il fallait regarder dans le vide en faisant la gueule ou moins faire des grimaces comme pendant une bonne gastro. Et en fait, non, c'est fou ce qu'on apprend.
C'est fou, c'est incroyable.
La posture aussi est importante et la journaliste nous dit qu'il ne faut pas croiser les bras par exemple, mais se montrer plutôt ouvert. Qui aurait pu penser, si je peux me permettre, je rajouterai aussi qu'il ne faut pas jeter son verre de gin tonic au visage de sa date sans raison, car cela pourrait être considéré comme une attitude agressive.
Peut-être, ouais.
Vous pourriez entendre des choses désagréables, petit, mais ça, pas ou quoi, t'es complètement con, Cécile, t'as un souci dans ta tête, donc ne faites pas ça. On continue avec un article percutant de Business Insider, et oui, car je suis une femme, mais aussi avant tout une véritable working woman.
Impressionnant.
Avec un accent anglais dégueulasse. Cet article s'intitule « 7 choses à ne jamais faire dans un magasin de la marque à la pomme ». Je me suis permis de traduire pour ne pas citer de marque. Alors pour ceux qui ne savent pas trop comment se comporter dans une boutique de produits high-tech, voici quelques bases. Parmi ces 7 choses, on ne doit absolument pas voler les produits d'exposition. Ah oui, chose qu'on aurait tous tendance à faire de base, bien sûr, malheureusement. On nous dit également dans cet article que néanmoins, ne pas voler les produits qui ne sont pas en exposition, c'est peut-être possible. Vous imaginez, on va jusqu'à là. Et oui, c'est terrible. Le journaliste nous déconseille également, je cite, de faire preuve d'agressivité envers les vendeurs. Mm-hmm. En effet, si c'est une attitude largement tolérable dans un bon nombre de magasins, il ne faut surtout pas le faire dans les boutiques de la marque à la pomme. Donc si vous êtes énervé et que vous avez envie d'en découdre, on vous conseillera plutôt d'aller dans un supermarché ou une bonne pharmacie. Heureusement qu'il existe des magazines pour nous aider à savoir comment bien se comporter.
C'est fou.
On finit avec les People, le magazine Voici, qui nous donne une bonne astuce pour cet été. Attention, alors cet article s'intitule « Josiane Balasco nous donne son astuce pour voir l'anatomie d'Alain Chabat et c'est à la portée de tous. » Mais merci.
C'est le titre, ça ?
C'est ça, ah ouais. Le titre. Mais merci, voici quelle info incroyable qui va permettre de mettre fin à cette attente insurmontable. Et c'est vrai d'ailleurs, encore hier, je discutais avec mes copines et on se disait « Oh là là, c'est relou, on n'a toujours pas vu l'anatomie d'Alain Chabat. Si seulement il existait une petite astuce pour le voir, ma vie serait quand même vachement mieux. » Donc pour tous ceux qui ont le même problème que nous, voilà la solution de Josiane, c'est de mettre au ralenti un passage du film Gazon maudit. Et oui, dans lequel on peut apercevoir le sexe d'Alain Chabat.
Oh là là, ouf, merci, ouais. Voici pour cette info qui va révolutionner notre été. Alors moi, je vous laisse méditer sur tout ça parce que c'est très intéressant et je pense revenir mardi prochain avec d'articles beaucoup plus intéressants que ce que je viens de vous proposer.
On a beaucoup, beaucoup de choses à méditer grâce à vous. Merci
et
beaucoup.
Et de films à revoir.
Merci, ouais, exactement. Au ralenti. Merci Cécile, on se retrouve jeudi pour une nouvelle météo des pages. Dans un instant, Margot, votre indispensable du jour, ou plutôt vos indispensables.
En hommage à vous, Anne Parillaud, on parlera de deux autres grandes actrices.
Merci Margot, à tout de suite dans le Club de l'été. On revient.
Europe 1, le Club de l'été. Thomas Hill.
Mon Dieu, il est déjà 10h11, ce Club de l'été file à toute vitesse. Et on va s'intéresser maintenant avec vous, Margot Barallon. Ah, des actrices, vous avez un petit conseil culture à nous donner, à retrouver sur Arte.
Oui, parce que depuis ce matin, nous apprenons à vous connaître, Anne Parillaud, et alors je vous propose deux documentaires pour apprendre cette fois à mieux connaître deux autres actrices américaines, cette fois-ci, qui ont marqué ou marquent encore l'histoire du cinéma.
Et on commence avec la première.
Celle qu'on appelait la Marilyn Brune, la comtesse aux pieds nus, l'incarnation même de la diva hollywoodienne, Ava Gardner, que rien ne prédestinait à conquérir le grand écran, puisqu'elle est née en Caroline du Nord, dans une région très rurale et à l'époque extrêmement pauvre.
Ava est née en 1922. Elle a 8 ans à l'orée de ses années 30, écrasante de pauvreté.
C'est le sud des États-Unis. Il y a des champs de tabac, pas des champs de coton. Et donc, Ava Gardner, elle grandit dans ce contexte. Donc un contexte très, très rural. Elle a un accent coupé au couteau. Elle vit un peu comme un garçon, elle grimpe aux arbres, elle fait les 400 coups. Elle court dans les champs de tabac, elle est déjà très singulière.
Et Ava Gardner sera finalement repérée complètement par hasard sur une simple photo alors qu'elle est de passage à New York. Donc c'est vraiment sa beauté stupéfiante qui va pousser la MGM, l'un des grands studios de l'époque, à lui proposer un contrat. Sans grand succès au début, et puis un film va changer sa vie, Pandora, en 1951. Alors ça change sa vie d'abord parce que l'industrie du cinéma va la remodeler et quelque part la dévorer.
Je pense qu'Ava Gardner avait un complexe de ses origines provinciales.
Et en devenant une actrice, ça l'a détruit.
D'abord, on lui a gommé son accent natal. Puis, on lui a appris à marcher, elle qui aimait être pieds nus. On lui a ensuite appris à se tenir comme une dame en société, elle qui était un garçon manqué. C'est pour ça qu'elle disait toujours « Ils ont fait de moi un être que je ne reconnais pas. Ils ont enlevé la part de moi-même que j'aimais le plus. Ils m'ont transformée. »
Et finalement, ce métier sera à la fois sa bénédiction et causera sa perte. Alors ce tournage de Pandora change aussi sa vie parce qu'il se déroule en Espagne. Et là, Ava Gardner tombe amoureuse de ce pays. Elle part s'y installer. C'est un choix qui n'a rien d'anodin à l'époque puisqu'on est quand même sous la dictature franquiste.
Et elle avait des liens particuliers avec Franco ou pas spécialement ?
Alors encore aujourd'hui, ça reste très difficile à dire. On ne sait même pas s'ils se sont rencontrés alors qu'Ava Gardner fréquentait toute la haute société madrilène à l'époque. Mais il y a une critique de cinéma espagnol qu'on entend dans le documentaire qui a sa théorie.
Elle ne partageait en rien cette idéologie. Elle préférait l'ignorer, tout ignorer. Elle était plus heureuse en ignorant tout ce contexte.
Et le documentaire est très intéressant parce que, justement, au-delà de sa vie amoureuse tumultueuse, notamment avec Frank Sinatra, on connaît assez peu Ava Gardner. C'était une actrice qui fuyait les médias, elle s'est très peu confiée. Donc c'est un beau moyen de la découvrir ou de la redécouvrir sur arte.tv.
Vous la connaissez, Ava Gardner ? Vous êtes intéressée à sa carrière ou ça ne fait pas partie de votre panthéon, Anne Parillaud ?
Si, moi ça m'intéresse beaucoup, mais parce qu'elle n'est pas unique dans cette trajectoire. En fait, c'était une usine à modeler des actrices Hollywood. Et donc, beaucoup d'entre elles ont des parcours comme ça, qui apparaissent comme des contes de fées, ouais. Et qui en fait sont des souffrances terribles et des êtres abîmés dans, ouais. dans leur identité et qui s'en rendent compte un peu tard parfois. Parce que sous emprise, ou parce que sous influence, ou parce que...
C'est vraiment ce qui transparaît du documentaire.
Deuxième doc à découvrir aussi sur la plateforme de la chaîne Arte. Et cette fois, c'est un portrait de Jodie Foster.
Oui, et c'est fascinant de mettre les deux en parallèle parce que justement, là où Ava Gardner et comme vous le disiez, Anne Perillo, bien d'autres se sont fait dévorer par l'industrie, là, Jodie Foster, elle a réussi, elle, à s'imposer. Et pourtant, au départ, elle a bien failli connaître le même destin, complètement formatée, puisque c'est une enfant star. Elle a commencé à 3 ans, traînée par sa mère de casting en casting jusqu'à décrocher un contrat chez Disney. Et la chance qu'a eu Jodie Foster, c'est que pile au moment où elle a eu envie d'autre chose, et bien Hollywood aussi.
Les décors de western en carton-pâte ne lui conviennent plus. Elle est au seuil de l'adolescence, souvent fatale aux jeunes acteurs. Heureusement, Hollywood fait sa mue en même temps qu'elle. Une nouvelle génération d'auteurs en plein essor impose sur grand écran une idée du monde plus subversive. L'un d'eux est Martin Scorsese et révèle dans un petit rôle une Jodie bien différente.
Des électrons libres apparaissent alors. De jeunes cinéastes comme Scorsese, Peter Bogdanovich ou George Lucas. Ils recomposent le paysage hollywoodien en y imposant un cinéma d'auteur au début des années 70.
Alors, vous aurez peut-être reconnu au début de l'extrait la voix du documentaire. C'est non, Mathieu c'est... Kassovitz.
Ah, c'est Kassovitz, voilà,
oui.
C'est ça, bien sûr.
Alors, le petit rôle dont on parle, c'est dans Alice n'est plus ici de Martin Scorsese, mais il va vraiment la révéler en 76 avec Taxi Driver. Et ce qui est magnifique, c'est qu'à partir de là, Jodie Foster a su faire de l'entrisme à Hollywood. Elle en a accepté d'abord les codes et ensuite elle a gardé sa liberté. Elle est devenue réalisatrice puis productrice. À l'époque, c'était très classique pour les acteurs, mais beaucoup moins pour les actrices. Et elle a toujours choisi des rôles qu'elle estimait importants.
À la fin des années 80, Jodie se bat pour décrocher un rôle inspiré d'un fait divers. Le combat de la victime d'un viol collectif pour faire condamner ses agresseurs. De quoi renaître dans un nouveau corps de cinéma. Le sien, bien réel, et prêt à la riposte.
L'histoire des femmes est pleine de victimes. Si je jouais seulement des Wonder Woman, j'enverrais un message tronqué.
Et voilà, tout son objectif, ça a été de ne surtout pas envoyer un message tronqué, mais bien de représenter toutes les femmes. Encore un documentaire passionnant sur une actrice qui l'est tout autant. Jodie Foster, Hollywood dans la peau, à retrouver là aussi gratuitement sur le site internet de la chaîne Arte.
Je sens que ça vous a particulièrement intéressé, Anne Parillo, et je me disais, en écoutant Margot Barallon, que c'est peut-être la première fois en fait, de votre carrière avec ce livre, que vous n'êtes pas dirigée, que vous n'êtes dépendante de personne, finalement, et ça a dû être très particulier pour vous d'être aussi libre. C'est un peu vertigineux, non ?
Oui, que je me suis échappée des Pygmalions, qu'on jalonnait toute ma trajectoire artistique. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a fait très peur. Et en même temps, c'est cette découverte de l'indépendance et de la liberté et d'assumer, effectivement, à l'instar de Jodie Foster, des choix. C'est-à-dire d'un seul coup de dire, j'écris comme ça, je pense comme ça, c'est mon point de vue, je le défends et je suis prête à la critique. Je suis prête au désamour, je suis prête à tout en fait pour assumer ce que je suis profondément et ne plus accepter d'être quelqu'un qui est dessiné par les autres et par le regard des autres. Et je suis devenue en fait ma propre Pygmalion et c'est effectivement l'ouverture pour moi et la découverte de ça pour mon futur. C'est-à-dire qu'il y aura un avant, il y aura un après. Je serai plus jamais la même.
Vous acceptez les critiques. Heureusement, elles sont excellentes, même dithyrambiques sur votre livre Les Abusés. Dans un instant, on va tester vos connaissances, Anne, avec notre blind test spécial héroïne du cinéma. Je sais que ça vous fait un petit peu peur, mais je pense que vous allez vous en sortir parce qu'il y a Fred Gouati à vos côtés. Il va vous aider. Mais d'abord, une musique qui vous correspond bien, je trouve, le cœur grenadine. Le cœur grenadine, ça vous arrive de l'avoir. C'est avec Laurent Voulzy sur Europe 1.
J'ai laissé dans une mandarine une coquille de noix bleues marines, un morceau de mon cœur et une voile planquée sous le vent tropical. Dans mes tiroirs, dans mon...
Sur Europe 1, le cœur grenadine.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
La suite du club de l'été avec Margot Barallon, Fred Gouattier et donc notre invité Anne Parillaud. Alors Anne, vous avez incarné de grandes héroïnes du cinéma français et international. Alors on avait envie de se faire un petit blind test sur les plus grandes héroïnes du cinéma. Essayez de retrouver le nom du film et vous avez deux jokers, rassurez-vous, Fred Gouattier, Margot Barallon peuvent vous aider. Fred très fort en musique, Margot très forte en cinéma, donc normalement vous devriez vous
là.
En sortir. Allez, premier extrait. Ça va.
Oui. Pulp Fiction, effectivement.
Pulp Fiction, Quentin Tarantino.
Uma Thurman.
Ça, c'est un must, ça. Vous auriez aimé tourner avec Quentin Tarantino ?
Ah oui, je suis complètement fou.
C'est ça.
Et qu'il part dans des délires. Et qu'à travers ces délires, il dit des choses très vraies sur l'humanité. Donc c'est toujours intéressant de partir dans des excès pour finalement ramener à quelque chose d'assez juste.
Allez, deuxième extrait. Ah, il y a un petit doute là.
C'est pas fini.
La musique est de Yann Tiersen. C'est français. C'est le compositeur.
Très très français.
Ah, Florette. Non, c'est pas.
Non.
Très très parisien.
Très parisien.
Très
on est
Montmartre.
À Montmartre.
Avec des nains de jardin.
Oui, c'est. Amélie. Pas Amélie.
Oui.
Amélie comme le chocolat.
Amélie Poulain.
Amélie Poulain.
Oui, c'est ça. Amélie Poulain. Et vous cherchiez peut-être le nom d'Audrey Tautou.
Voilà.
Parce qu'elle a été très marquée, évidemment, par ce rôle. Un peu comme vous avez été très marquée par Nikita. Ça vous embête d'ailleurs parfois qu'on revienne tout le temps à Nikita ?
Non, je le comprends complètement. Puis de toute façon, elle fait partie, alors pour le coup, vraiment de mon panthéon personnel. Et c'est ma jumelle. C'est... Et puis en plus, moi, le cinéma, ce n'est pas de la fiction pour moi, c'est de la réalité. Donc c'est ma vie et elle fait partie de ma vie. Et je comprends tout à fait ce qu'elle a proposé et donné au spectateur. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, ça m'intéresse aussi de lui donner une autre sœur.
Ouais, allez, une autre héroïne. On change de registre là.
C'est pas Diva ? Non, c'est pas le Benex.
C'est une musique d'Eric Serra.
Et c'est un réalisateur que vous connaissez très bien,
oui,
Luc.
C'est Serra,
c'est Luc Besson, ouais.
Donc c'est Luc Besson.
Alors lequel ? Lucia di Lammermoor.
La personne qui chante n'a pas forme totalement humaine, elle est plutôt extraterrestre.
C'est plutôt de la science-fiction.
C'est un opéra
cinquième
sur
élément.
Le cinquième élément. Exactement. Bien. Bah oui, vous en sortez. Bon, il faut quelques petits indices. Hein, mais... Et alors, ce qui est formidable dans le club de l'été, c'est qu'on peut passer d'un air d'opéra à ceci. La Fred Gouattier, il est affligé.
Oh non, ils ont osé.
Quand on a des enfants, on la connaît très bien, cette
On la
chanson.
Connaît par cœur.
Ah, c'est un dessin animé.
Et elle nous reste dans la tête toute la journée.
Ah oui.
Ouais.
Comment ça fait
Vous l'avez pas quand même, la Reine des Neiges.
La Reine des
Neiges. Bien sûr, la Reine des Neiges.
Non, vous avez peut-être de la chance de pas l'avoir.
Ouais, de pas l'avoir dans la tête, surtout. Pardon à nos auditeurs. Une autre grande héroïne du cinéma américain.
Je
Ça, c'est un grand film, ça, qui a révélé une grande actrice. Là, il vient de le chanter, là, on peut pas faire mieux.
Il vous a donné le titre.
C'est trop tôt.
Julia Roberts, en 1990. Et c'est Pretty Woman.
Ah, Pretty Woman.
Ah, bien sûr, Pretty Woman. D'ailleurs, carrière internationale, vous en avez eu une très belle, même, parce que j'ai vu que vous aviez même joué avec Leonardo DiCaprio. C'était dans Le Masque de Fer. Mm. C'était une belle rencontre, ça?
Ah oui, parce que je l'ai... Enfin, il sortait du succès planétaire Titanic. Et ouais. Je me suis retrouvée face à quelqu'un d'une humilité, d'une sagesse et d'une... Voilà, d'une... Quelqu'un de très équilibré. Et ça ne l'avait absolument pas entraîné dans des dérives ou dans des... voilà, il y a quelque chose de très humble et très poétique.
Et vous, ça ne vous a pas intimidé plus que ça, de vous retrouver en face de lui?
Ah si, moi oui.
Si.
Moi oui. Et effectivement, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux. Et sur des prises où les scènes, le metteur en scène était content, Leonardo disait non, mais si Anne, elle en veut une autre, moi j'ai aucun problème, ah, on continue. Et il donnait des prises à faire comme ça, non. Oh. Quelqu'un de formidable, fort. Vraiment.
Un autre film étranger, mais cette fois on reste en Europe. Bien sûr.
Le plus grand réalisateur espagnol contemporain.
Je suis sûr que vous adoriez.
Ah oui.
Je suis sûr que vous adoreriez travailler avec lui, non, Almodovar.
Ah bah oui.
Là, on écoute Sofiane Sanmi, hein, c'est de Talon Aiguille, hein, bien sûr.
Ah 91. Si. Penélope Cruz.
Non, c'est Victoria Abril.
Ah, Victoria. Ouais.
César du meilleur film étranger en 93. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnages féminins chez Almodovar?
Excessif, dans une hystérie qui, moi, me plaît, parce que moi, j'aime beaucoup la folie artistique et créatrice. Et voilà, je trouve que ces femmes qui vont jusqu'au bout de leurs sensations, de leurs sentiments, de leur désir, de leur folie, moi, je trouve qu'il y a une vérité, justement, un accès à une vérité qui n'est pas standardisée, qui n'est pas automatique, qui est juste, qui est vraie.
Allez, fin de la torture, dernier petit extrait.
Ah oui.
Ça, vous êtes obligé de connaître.
Nikita.
À un moment, on ne peut pas faire plus facile. C'est Nikita, très, très fort, ça aussi. Eric Serra. J'ai vu que dans une interview, vous dites que le personnage de votre Adélie, il est en mesure de rivaliser avec Nikita, le personnage de votre livre. C'est l'un de vos buts, faire un peu oublier Nikita. Et puis surtout, porter ce livre à l'écran un jour. Vous l'avez écrit pour ça?
Alors oui, moi j'aimerais vraiment le réaliser et incarner mon héroïne, mais c'est vrai que Nikita, j'ai perdu en fait ce que je voulais dire par rapport à ce que vous m'avez dit.
Que vous souhaitez le porter à l'écran, oui. et l'incarner même.
Oui, mais c'est parce que, voilà, c'est parce qu'en fait j'ai une exigence et une demande par rapport au personnage que je désire incarner avec ce que je possède en moi, et que finalement... Je suis peut-être la mieux placée pour savoir ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai envie d'exprimer, et qu'on ne me propose pas forcément des rôles de cette puissance-là. Et donc, pour pouvoir rivaliser avec un rôle puissant, il faut un autre rôle puissant. Et donc, dans le cinéma, c'est comme tomber amoureux. On ne tombe pas tous les jours amoureux, comme on ne trouve pas tous les jours un personnage d'une dimension telle qu'une
guitare. Vous l'avez peut-être trouvé. On revient tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
On est de retour pour le club de l'été. Et alors là, c'est le moment de la pépite de Fred.
Pression qui m'aime.
Ah ouais, je suis obligé de mettre la pression chaque jour. Non, parce qu'on adore cette séquence où Fred nous fait découvrir une grande pépite. Une pépite de la musique française ou internationale.
Nous sommes fin 1971. Ouh, en plein hiver, il fait froid dans le canton de Vaud, en Suisse. C'est beau, hein, mais il fait froid. Et les membres de Deep Purple, ils sont venus enregistrer, là, oui, leur nouvel album. Où ça? Au casino de Montreux. Oui, parce que le casino de Montreux, on y joue, mais on y chante aussi. Il y a une scène, on peut faire des concerts. Et le lendemain, ils assistent à un concert au casino de Montreux pour voir Frank Zappa. Et puis pour prendre leur marque un petit peu, pour voir à quoi ressemble le lieu, ils veulent enregistrer dans les conditions du live, en quelque sorte. Seulement voilà, Il y a un couillon, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi, qui a un pistolet, un lance-fusée, qui tire en l'air pour s'amuser, il trouve ça drôle. Sauf que le toit du casino de Montreux est en pariote. Tout prend feu, très très vite, en quelques secondes, tout s'embrase. Et le casino de Montreux est réduit à néant.
Ouais.
Claude Nobs, qui est le créateur du festival de Montreux, il a sa lance incendie, il court partout. Et le lendemain, bah, les membres de Deep Purple, ils sont gros gens comme devant. Je ne sais pas si c'est en Suisse qu'on dit ça. Ils n'ont plus d'endroit pour enregistrer leur disque. Et Claude Nobs, qui était un monsieur très inventif, qui a toujours beaucoup d'idées, il s'est dit, moi j'ai une idée, on va vous loger au Grand Hôtel. Le Grand Hôtel, c'était en plein hiver, il était fermé, hors saison. Donc les membres de Deep Purple s'installent au Grand Hôtel, qui est entièrement vide. Et ils transforment des chambres en studio d'enregistrement, le couloir aussi. Ils mettent même la batterie dans la salle de bain. Vous allez me dire, comment ils enregistrent ? Eh bien, il y a un studio mobile qui arrive comme ça, d'Angleterre, et qui est installé dehors, garé, devant le Grand Hôtel. C'est dans ces conditions qu'ils enregistrent leur nouvel album. Alors, le midi, il faut bien qu'ils mangent. Ils vont au restaurant du coin. Et le chanteur du groupe, un peu traumatisé par cet événement, par cet incendie, mais il écrit des paroles comme ça, sur le coin de la nappe, à la fin, en attendant entre la poire et le dessert, la poire et le fromage, comme on dit, pardon. Et c'est un peu... Voilà, il raconte ce qu'il a vécu quelques jours plus tôt, un peu façon rédaction d'écolier. Une très bonne rédaction. Hein. Moi, je mets 18 sur 20.
Oh oui.
Voilà. Il raconte donc qu'il y a eu un incendie et qu'il y avait de la fumée sur l'eau. Smoke on the water. Parce que c'est lors de ce séjour, finalement, non prévu dans le Grand Hôtel, qu'ils vont enregistrer un album entier et notamment cette chanson hyper connue qui va devenir un hymne rock et qui est portée donc par un riff,
ouais.
Ce qu'on appelle un riff
de guitare.
Tin, tin, tin. Alors c'est ballot, hein, c'est facile à jouer. Tous les guitaristes en herbe d'ailleurs, dès qu'on leur donne une guitare, c'est souvent ce qu'ils essayent de jouer. Ça, c'est peut-être pas si facile que ça, en tout cas à jouer non plus, et surtout à faire sonner comme il faut. N'empêche que voilà, ce riff qui a des airs de rengaine en quelque sorte, il va rapidement coller aux doigts de son inventeur, qui est le guitariste, qui s'appelle Richie Blackmore. Il va très très vite en avoir un peu marre de le jouer, ce truc-là. C'est un peu, vous voyez, le sparadrap du Capitaine Haddock, il ne va pas réussir à l'enlever des doigts. Voilà. Et c'est drôle parce que finalement, cette chanson qui est un hymne, qui raconte finalement leurs vacances en Suisse, qui aurait pu très très mal tourner, est portée par un riff donc, qui va résumer un peu malgré lui toute la carrière de ce guitariste. Et ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser surtout aussi à l'effet papillon. Vous savez, normalement, on dit qu'un battement d'aile d'un papillon peut provoquer une tornade au Texas. Paraît-il, je ne sais pas, faudra demander à Laurent Cabrol. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'un imbécile qui tire un coup de feu en l'air peut changer l'histoire de la musique. Parce que sans ce monsieur qui a tiré un coup de feu en l'air, pas d'incendie au casino, de smoke on the water, etc., etc., etc. Donc je ne sais pas s'il est encore en vie ce monsieur, parce que ça s'est passé il y a 50 ans. Mais on le remercie, il a changé l'histoire du rock et on pourrait presque l'applaudir bien fort.
Le fameux riff de guitare dont nous parlait Fred Goati. Merci beaucoup Fred de nous avoir fait découvrir une fois de plus, partager cette pépite. Vous êtes définitivement notre disque d'or,
oh,
Fred.
Merci.
Anne Parillaud, ça vous arrive aussi de faire de la scène. Avant la pandémie, en 2019, vous avez joué Mrs. Robinson dans l'adaptation du Lauréat de Christopher Thompson. Vous comptez revenir sur scène dans les mois à venir ? C'est envisageable ça ?
Ah, je l'espère de tout mon cœur. C'est une expérience que j'ai adorée. J'en ai fait très peu. En fait, j'ai fait ça au tout début de ma carrière, où je jouais la fille de Jeanne Moreau et de Jacques Dufilot dans une pièce qui s'appelait L'Intox de Françoise Dorin. Ouais. Elle a duré 9 mois. J'ai trouvé ça épouvantable de longueur et j'ai dit plus jamais. Et en fait, quand on m'a reproposé, là, ça a été... J'étais prête, en fait. C'était
le bon moment et le bon texte.
Ah oui, et j'ai adoré, et j'ai un projet avec le même metteur en scène.
Ah.
Pour, voilà, dès que Covid permet.
Mais c'est quoi ce projet ?
Ah, c'est un projet sur un couple aussi, sur un couple toxique.
Oh là là, mais décidément, vous n'allez pas en sortir.
Non, c'est une psychiatre qui passe sa vie à analyser les victimes d'un psychopathe qui lobotomise, mais qui ne tue pas ses victimes, et qui un jour va pénétrer sa maison et va être face à elle, et on ne saura jamais si c'est lui ou pas. Et en fait, les choses vont s'inverser. Et c'est très fort sur comment le mental est fragile et comment un mental bien équilibré peut basculer de l'autre côté. Encore une fois, là, le combat du bien et du mal.
Alors on veut voir ça, on veut venir vous applaudir sur scène. Et puis, ce livre, c'est vrai qu'il a bouffé pas mal de choses. J'ai l'impression, ces derniers temps, dans votre vie, ça vous a éloigné aussi un peu du cinéma.
Ah oui, 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 parce que effectivement, je voilà, c'était un absolu et une expérience que je voulais vivre 100%. Et que je n'arrivais pas à me voilà à m'échapper et voilà, c'était ça ma vie,
c'était
j'ai découvert l'écriture et ça m'a vampirisé.
Les Abusés chez Robert Laffont. Dans un instant, l'autre pépite de cette émission, Margot Barallon. Margot, elle a toujours de bonnes idées pour nos vacances. Où est-ce qu'on part aujourd'hui ?
On va partir dans la campagne champenoise et vous verrez qu'on part surtout avec de charmants compagnons, un peu têtus mais très mignons.
On arrive tout de suite.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
De retour pour la suite et la fin du club de l'été. Et c'est l'heure de notre bon plan avec Margot Barallon. Où est-ce qu'on va aujourd'hui ?
Alors, Anne Parillo, je crois que vous adorez la cathédrale de Reims.
Oui.
Pourquoi ?
Parce qu'elle est magnifique. Alors, c'est pas la seule, hein, c'est évident, mais parce que je l'ai vue récemment au cours d'une signature pour mon livre. Et en fait, je découvre à travers cette tournée des signatures la France. Et j'ai découvert Reims et donc sa cathédrale. Et j'ai été stupéfaite de l'architecture, de la minutie architecturale, de toutes ces têtes royales qui sont sculptées. Enfin, c'est un prodige de création aussi. C'est un art absolu. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup émue.
Donc, vous adorez la cathédrale de Reims. Vous adorez marcher aussi. Eh bien, je suis donc allée repérer un bon plan à une heure de là, à Outines, au bord du lac d'Oder. Alors, il y a beaucoup de jolies randonnées à faire, seule ou en famille, sur des sentiers, seule, en famille ou bien accompagnée. Et justement, je vous propose de partir avec un âne.
Ah,
alors, c'est ce que propose Chantal Pinto avec Champagne. Vous aurez le jeu de mots. Ah. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Alors, vous êtes la propriétaire de Lulu et César, deux charmants petits ânes du Cotentin, et vous proposez donc des randonnées à leur côté. On peut prendre une version guidée pour quelques heures ou celle en toute liberté sur un ou deux jours. Et là, ça demande une petite formation pour apprendre à s'occuper des ânes.
Ah, tout à fait. Mais c'est une petite formation qui ne va durer que 1h30 environ, dans laquelle on va simplement enseigner comment marche un âne, parce qu'un âne, en fait, finalement, ça marche bien.
Et alors, on forme donc les randonneurs aussi, j'imagine, à les batter, à s'occuper d'eux quand on part deux jours avec les animaux.
Ah bah écoutez, oui, quand on part deux jours, alors là, on a un bât, on a des sacoches, on a un petit peu de matériel à transporter, mais on fait aussi le transport du matériel de bivouac, donc ça permet quand même de partir relativement léger, en pleine nature, et de découvrir l'environnement magnifique, préservé du lac d'Uder et de sa région, d'Uder à Pont-de-Bois, le patrimoine historique aussi, puisque nous avons énormément d'églises et de maisons en colombage.
Vous nous dites, Chantal, que les ânes, ça marche bien. Donc c'est une légende, en fait, c'est ça ? Comment vous faites pour les faire avancer ?
Ah, écoutez, c'est une éducation qui se fait dans le temps et donc nous éduquons nos ânes très jeunes. Donc en fait, ils ont l'habitude de partir avec tout le monde peut prendre un âne à condition effectivement de marcher avec lui. Nous ne proposons pas de l'équitation, mais les enfants de moins de 20 kilos peuvent monter sur l'âne sans problème.
D'accord. Donc c'est l'activité parfaite à faire en famille hein, quand on a des jeunes enfants qui n'aiment pas trop marcher finalement.
Tout à fait, c'est fait pour d'ailleurs. Nous avions constaté que beaucoup de jeunes parents ne randonnaient plus ou ne randonnaient pas parce qu'il fallait porter les enfants qui étaient devenus trop lourds.
Je vous confirme.
Donc justement, les ânes sont les médiateurs appropriés pour pouvoir le faire à leur place.
C'est ça, et en fait, les enfants, parce qu'ils sont à côté d'un âne, vont se mettre à marcher beaucoup plus qu'on aurait pu le croire.
En fait, c'est vrai que l'enfant, il a plus de contact avec l'âne quand il est au sol. Et donc, il va naturellement marcher sans même s'en rendre compte, puisque c'est son compagnon de jeu, c'est son compagnon d'une journée ou de deux jours.
Et alors, pour ceux qui n'ont pas peur de l'aventure, il est donc possible en fait, de faire une grande boucle sur deux jours et de passer la nuit en tente.
C'est ça. Donc, en bivouac ou dans la tente d'Aladin, qui est le troisième hébergement insolite de notre complexe au milieu de nulle part, hein, au lac du Der. Et donc, on peut partir donc sur environ une trentaine de kilomètres, ce qui constitue donc une boucle autour des églises à pans de bois et du lac du Der.
Et donc, une trentaine de kilomètres, hein, mais plutôt facile, ça reste accessible à tout le monde.
Ah oui, 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 c'est une quinzaine de kilomètres par jour. Il faut quand même aimer la randonnée, bien entendu. Mais c'est plat, il n'y a pas de difficulté majeure. Et même les enfants donc, vont marcher à côté de l'âne ou se faire porter sans s'en rendre compte. En fait, ils ne vont même pas être fatigués. Je pense que l'âne sera peut-être un petit peu plus fatigué qu'eux.
Voilà. Très bien. Merci beaucoup Chantal Pinto. Je rappelle que vous proposez donc les randonnées champagne, mais aussi voilà, des séjours dans des habitats insolites, dont cette fameuse tente d'Aladin. Et tout est à retrouver sur votre site aumilieudenulpart.com.
Merci beaucoup Chantal Pinto. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Anne, ça vous dirait de marcher avec un âne ?
Moi, j'ai toute expérience, c'est intéressante. Donc, si c'est avec l'âne,
pourquoi pas. Allez, dans un instant, on passera un coup de fil au chef Simone Zanoni. Mais avant cela, on va écouter le gros tube de l'été, Doja Cat, Kiss Me More, Embrasse-moi plus. Ça sonne toujours moins bien en français. C'était Doja Cat sur Europe 1 avec Kiss Me More.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Le club de l'été jusqu'à 11h. Il nous reste encore quelques petites minutes. Et pour terminer l'émission, comme chaque jour, on va passer un coup de fil. Un coup de fil à un chef d'un restaurant pour sa recette du jour. Et aujourd'hui, on est avec Simone Zanoni, le chef du restaurant Le Georges à l'hôtel Georges V à Paris. Bonjour Simone.
Bonjour à tutti. Vous allez bien?
Comment stai?
Molto bene, molto bene. Surtout que je vous appelle dans l'Italie, je suis à Bologne.
Ah d'accord, donc vous êtes en vacances là en ce moment ou vous travaillez?
Je suis en vacances, je suis en train de sourcer des bons produits italiens et en même temps j'en profite du soleil à 38 degrés.
Oh là 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 là, vous avez du beau temps, vous avez de la chance en Italie. Mais alors comment se porte le restaurant pendant ce temps?
Alors le restaurant, ça se porte très bien. On a un afflux de clients qui est génial. On est complet. Les midis, un peu moins parce qu'on a une clientèle d'affaires qui est partie en vacances. Mais le restaurant, il marche très, très, très bien.
Bon, et alors, vous allez nous proposer une petite recette pour terminer cette émission. Qu'est-ce que vous nous proposez? Quelque chose de simple à faire à la maison?
Alors, quelque chose de simple. Moi que je suis fan des pastas, des tortelli,
ouais.
Moi, je vous conseille, si vous avez le temps, de suivre un petit peu la recette qu'on fait sur mon compte Instagram, parce qu'on a donné tellement envie à beaucoup de Français de cuisiner italien.
C'est vrai.
On fait des tortelli avec de la belle potiron, avec de la petite mostarde, hein, avec une farce généreuse, avec du parmesan. Légèrement technique, mais je pense que dans le confinement, les gens, ils ont eu vraiment envie d'aller chercher cette belle cuisine italienne, d'apprendre à faire des pâtes farcies, d'apprendre à les cuire, à les cuisiner.
Ah justement, c'est quoi le secret des pâtes pour bien les faire cuire, Simone?
Alors déjà, si on parle des pâtes sèches, c'est justement le secret que nous, on a dévoilé, qu'on a expliqué tout le long du confinement, c'est de couper la cuisson en deux. La première partie de cuisson, elle doit être dans de l'eau bouillante assaisonnée. La deuxième partie, elle doit être faite directement dans la sauce. Parce que comme ça, la pasta, elle va se réhydrater avec la sauce même et elle va être beaucoup plus liée, beaucoup plus goûteuse.
D'accord. Donc ça, c'est le secret. Et puis après, le temps aussi. Hein. Trouver le bon
et
timing.
Et après, le temps est relatif. Et vraiment, c'est une question justement parce que si on a un peu plus de temps, on peut aller chercher des recettes un peu plus élaborées. Mais moi, on a aussi montré comment faire des penne au beurre et jambon, mais avec une technique particulière. Et les gens, je vous garantis qu'ils m'envoient des messages en me disant « Simone, depuis qu'on vous suit, on ne peut plus cuisiner les pastas comme avant. Il y avait avant Simonet et après Simonet.
Et bien ça, c'est une bonne publicité.
Ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir.
Mais c'est vrai que j'invite aussi nos auditeurs à aller suivre votre compte Instagram. C'est très sympa de vous suivre. Je précise aussi qu'on vous retrouvera du 16 au 19 septembre prochain au Festival des Chefs Taste of Paris qui se déroulera au Grand Palais Éphémère à Paris. Donc, merci Simonet.
Grazie mille a tutti et buona giornata. Bonne journée.
Grazie mille, Simone. À très bientôt. Tant qu'on parle de festival, Anne Pario, jeudi, vous serez près de Nice. Je ne sais pas si vous le savez, à Bonson.
Ah si, je le sais, oui.
À 20h30 pour une lecture, c'est ça? Dans le cadre du Festival des mots.
Festival des mots initié par Frédéric Garnier. Et effectivement, je trouve que c'est une initiative très belle parce que c'est d'amener la culture à travers les lectures qu'on propose. Bah, c'est toujours pareil, c'est d'ouvrir la connaissance et de faire partager des œuvres. Moi, j'ai choisi Candide
de Voltaire
ouais. Donc je suis ravie de pouvoir lire cet ouvrage.
Et puis avant ça, je précise pour vos fans, à 18h30, une rencontre débat autour de votre livre, pour ceux qui veulent se le faire dédicacer. Ça, c'est
exactement,
à la médiathèque de
avant, il y a signature. Exactement.
Est-ce que vous arrivez à vous considérer comme une auteure aujourd'hui, à part entière, même si c'est votre premier ouvrage?
Non, mais de la même façon que je ne me considère pas non plus actrice. C'est-à-dire que vrai que je laisse vraiment les autres dire ce que je suis et définir ce que je suis par rapport à ce que je propose. Et c'est vrai que ce qui m'a vraiment touchée, c'est qu'on m'a considérée... on m'a ouvert la famille des auteurs et qu'on m'a considéré comme un écrivain. Mmh. Et ça, c'était le plus beau compliment qu'on puisse me faire et qu'on n'a jamais dit, c'est l'actrice qui écrit, mais il y a une actrice et il y a une auteure et une écrivain. Et donc ça m'a profondément touchée.
Fred ?
Mais j'imagine que vous pensez déjà à votre prochain livre, parce que quand on attrape le virus de l'écriture, ça se soigne pas, ça.
En fait, au bout des 6 années, je me suis dit... je vais vivre, je vais revivre, et en fait 10 jours après, je cherchais un crayon, une page, et j'ai j'ai envie d'y retourner.
C'est secret, on peut pas savoir. Il y a un
petit
pitch.
Vraiment une addiction, quoi. Bon, vraiment, vraiment. Je vois plus la vie autrement que à travers le fait de tout essayer de traduire sur la page, quoi.
Vous avez déjà un thème ou pas?
Oui, j'en ai plein.
On peut le dire ou c'est encore secret? C'est encore secret. Bon, en tout cas, dans Les Abusés, vous faites dire à votre héroïne à un moment, je ne sais jamais comment me comporter avec la bienveillance, les compliments ou les récompenses. Mmh. Ça m'oppresse, vous dites. J'espère pas vous avoir trop oppressé pendant cette émission, mais j'aimerais vraiment que de nombreux auditeurs se plongent dans votre livre et que ça contribue à vous consoler d'une certaine manière.
Merci.
Anne Pario,
merci
Les
beaucoup.
Abusés, c'est chez Robert Laffont et c'est à lire vraiment cet été, où que vous soyez. Le Club de l'été, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci mille fois Anne Pario d'avoir passé ces 2 heures avec nous.
Merci à vous.
Ça s'est bien passé?
Oui, formidable.
Oui, finalement. Demain, dans le Club de l'été, on aura le plaisir de recevoir l'animateur Cyril Ferraud. Merci beaucoup à toute l'équipe du Club à la préparation de cette émission. Et tout de suite, c'est le baroudeur Philippe Goudleur. Salut Philippe.
Bonjour Thomas.
Où est-ce qu'on part aujourd'hui?
Alors vous savez, souvent c'est le nom d'un pays qui fait rêver. Là, c'est le nom d'une région. L'Andalousie. Vous savez que ça fait penser, voilà, déjà à la musique, et puis au soleil, à la chaleur, mais surtout toute une pléthore de villes mythiques. Il y a Cordoue, la ville du cuir, d'ailleurs, qui a donné le mot cordonnier, cordonnier. Il y a Séville, il y a Grenade, Malaga, Cadix et sa belle.
Bien sûr.
Et puis les petites terrasses adorables dans vous savez, ces petits villages tout blancs accrochés à la montagne. On va manger des tapas le soir jusqu'au bout de la nuit.
Oui, parce que ça vaut le coup de rentrer un peu dans les terres en Andalousie. Hein.
Ah, absolument. Bon, je préfère l'intérieur que la côte. Mais bon, les avis sont partagés, on va en parler.
Est-ce qu'on a le droit d'avoir encore un petit peu de musique andalouse? Parce qu'il y a Nathalie Corré qui apprécie particulièrement et je la vois danser dans votre studio.
Elle danse.
Elle donne tout. Elle donne tout, Nathalie. Fred.
Et Philippe, n'oubliez pas de passer C'est une Andalouse de Julien Clerc, hein, s'il vous plaît.
Ah, hein,
magnifique chanson.
On a un carnet de balles chargé. Hein.
Très bien. Eh ben, on y est déjà, en tout cas. Passez une très très bonne journée sur Europe 1 et à demain.
À demain.